tout de suite le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Après l'expiration d'un ultimatum hier lancé au président élu Nicolas Maduro, lequel a refusé de convoquer une nouvelle élection présidentielle, plusieurs capitales européennes, Paris, Madrid, Londres et Berlin, ont reconnu ce matin l'opposant Juan Guaido comme président du Venezuela par intérim.
En Égypte, une centaine de députés ont déposé un projet d'amendement constitutionnel.
Oui, objectif, permettre au général Al-Sisi de se représenter à la présidentielle au terme de son deuxième mandat. Ce sera en 2022.
Dans cette édition également, la décision d'organiser un référendum pour sortir de la crise des Gilets jaunes n'est absolument pas prise.
La déclaration ce matin du président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, interrogé hier sur cette perspective, l'Élysée avait fait savoir que tout était sur la table, et puis après l'heure, le Lot, la Drôme et les élus d'outre-mer, le président Emmanuel Macron est attendu cet après-midi à Courcouronne dans l'Essonne pour un échange avec 300 élus et représentants d'associations d'Île-de-France. Le procès en diffamation de France Inter, Mediapart et plusieurs femmes accusant Denis Baupin d'agression sexuelle et de harcèlement a débuté ce matin devant le tribunal correctionnel de Paris en l'absence très remarquée de l'ancien élu écologiste. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Comment analyser un mouvement jusqu'ici inédit, Gilets jaunes, peut-on surtout analyser l'histoire en cours? On en parlera avec notre invité, le philosophe Jean-Claude Modenau. Il est l'un des contributeurs d'un ouvrage collectif qui s'interroge sur le rôle et la place des sciences humaines et sociales pour analyser ce qui se joue aujourd'hui.
Merci, à tout à l'heure. Depuis la Yougoslavie, il y a tout juste 20 ans, jusqu'au Venezuela aujourd'hui, en passant par l'Irak, puis les printemps arabes, la question d'un point de vue libertarien se pose toujours avec les mêmes termes. Une intervention étrangère destinée à soutenir un nouveau leader dans le but de renverser un président en place, jugé autoritaire, est-elle légitime dès lors qu'il ne peut jamais y avoir unanimité de consentement de la part de la population directement concernée? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, parce que le droit d'ingérence ne fait pas lui-même l'unanimité parmi les libéraux, il a depuis été transformé en devoir d'ingérence. Or, depuis ce matin, la question ne devrait pas manquer de se poser à nouveau après que la France, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont tour à tour reconnu l'opposant vénézuélien Juan Guaido en tant que chef de l'État par intérim. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, ça n'est pas véritablement une surprise dans la mesure où la veille, le président élu, Nicolas Maduro, avait rejeté l'ultimatum de plusieurs de ces pays européens pour l'organisation d'un nouveau scrutin. Il n'en reste pas moins qu'on peut légitimement s'interroger à la fois sur les raisons donc qui conduisent aujourd'hui un certain nombre d'États dits démocratiques à intervenir ainsi dans les affaires intérieures d'un pays souverain, en l'occurrence le Venezuela, mais aussi les solutions qu'il propose pour mener à bien cette transition.
Oui, c'est un débat récurrent dans ce genre de situation. Faut-il rester à l'écart au nom du principe de non-ingérence ou prendre parti pour ne pas être indifférent à une situation dramatique? Pour ce qui est du Venezuela, l'Europe a, surtout depuis quelques semaines, une position tranchée et largement partagée, à défaut d'être unanime, un soutien à Juan Guaido et la volonté de redonner au Venezuela un pouvoir légitime. La question se pose évidemment non seulement à cause des conditions contestées dans lesquelles Nicolas Maduro a été réélu au printemps dernier, mais aussi en raison du nombre de Vénézuéliens qui ont voté avec leurs pieds. Plus de 2,5 millions d'entre eux ont quitté leur pays pour se réfugier à l'étranger face à la catastrophe économique et humanitaire qui s'aggrave de jour en jour. Parmi les pays de l'Union européenne, l'Espagne occupe une place à part dans cette affaire, d'abord en raison de sa proximité culturelle avec ce pays d'Amérique latine, mais aussi parce que des opposants vénézuéliens ont été accueillis par Madrid et surtout du fait de la présence de 170 000 ressortissants espagnol au Venezuela. À cette exception près, l'Europe n'a pas d'intérêt particulier à s'investir dans la résolution de la crise. Alors il y a bien sûr le pétrole qui attire les convoitises avec les premières réserves connues au monde, et de ce point de vue, le soutien apporté par les États-Unis à Juan Guaido ne se résume peut-être pas à la défense des valeurs démocratiques. Quant aux solutions proposées par les pays étrangers favorables au chef de l'opposition, elles interrogent forcément sur leur mise en œuvre. Le scrutin présidentiel qu'une partie de la communauté internationale appelle de ses voeux sera bien sûr très compliqué à organiser et Nicolas Maduro fera tout pour s'y opposer. La menace d'une intervention militaire des États-Unis n'est pas non plus de nature à apaiser les tensions, d'où les craintes exprimées après la promesse par Juan Guaido d'une aide humanitaire massive en provenance de la Colombie et du Brésil. Certains y voient les prémices d'une ingérence américaine malgré l'urgence pour la population du Venezuela.
Merci Bertrand Galichet. Surnommé l'hirondelle, emblème de son parti, Nayib Boukele, 37 ans, fils d'un notable d'origine palestinienne devenu l'enfant terrible de la politique salvadorienne, a été élu dès le premier tour hier à la fonction suprême avec 53% des suffrages. Le candidat anti-système faisait d'ailleurs figure de favori à cette élection présidentielle. Ses deux principaux rivaux, le candidat du parti de gauche au pouvoir et le représentant de la droite conservatrice, ont aussitôt reconnu leur défaite. Reste que pour tenir jusqu'au bout son pari, l'ancien maire de la capitale, élu avec la promesse d'en finir avec le bipartisme droite-gauche, devra non seulement conclure un accord de gouvernement avec la majorité parlementaire actuellement détenue par la droite, mais aussi rompre avec cette double malédiction de la misère d'une part, qui pousse encore aujourd'hui des milliers de Salvadoriens à fuir leur pays, et de la violence d'autre part, le Salvador étant confronté à une forte criminalité avec l'un des taux d'homicides les plus importants au monde. À défaut d'avoir obtenu du Congrès son accord sur le financement d'un mur anti-immigration, le président américain Donald Trump a décidé d'envoyer 3750 soldats de plus à la frontière avec le Mexique, multipliant ainsi par 7 le nombre d'hommes déjà déployés sur place. Et puis dans le même temps, le chef de la Maison-Blanche a donné jusqu'au 15 février au Congrès pour se mettre d'accord sur le financement de son projet de mur qu'il veut faire ériger à cette frontière, projet que ses adversaires démocrates majoritaires à la Chambre des représentants dénoncent comme inhumain et dispendieux. Quand une minorité non négligeable de dirigeants cède peu à peu aux sirènes de l'autocratie, voilà plusieurs années déjà qu'un certain nombre de chefs d'État africains notamment travaillent à leur maintien au pouvoir, bien que la constitution de leur pays le leur interdise. Et cette épidémie qui semble se transmettre entre palais présidentiels pourrait bien avoir touché l'Égypte. Une centaine de députés viennent en effet de déposer un projet pour permettre au président, le général Al-Sissi, de se représenter en 2022. Actuellement, la Constitution limite la durée du mandat présidentiel à 2 fois 4 ans. Les élus souhaitent qu'elle soit portée à 2 fois 6 ans, ce qui, le cas échéant, permettrait donc à Al-Sissi de rester au pouvoir au moins jusqu'en 2024. Et c'est ainsi que depuis plusieurs semaines, le pouvoir égyptien tente de préparer l'opinion publique à cette révision constitutionnelle, ce qui n'empêche pas la colère de s'exprimer, notamment sur les réseaux sociaux. La précision au Caire de François Ferkataji.
Non à l'amendement de la Constitution, c'est le hashtag le plus tweeté de la journée en Égypte, dans un pays où le Parlement et les médias sont largement contrôlés par les services de sécurité et ne laissent quasiment aucune place à une expression libre. La pétition d'un groupe de députés intitulée « 4 ans, ce n'est pas assez » a créé de vives réactions sur les réseaux sociaux, aussi dominés par le message « Sissi dégage ». 125 députés sur 596 se sont déjà prononcés pour une extension du mandat présidentiel, car la nouvelle Constitution égyptienne limite à 2 mandats l'exercice du pouvoir. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État en 2013, puis lors de parodies d'élections électorales, a été élu pour 4 ans en 2014 et en 2018. Les députés parlementent déjà aussi pour savoir si l'allongement de la durée du mandat de 4 à 6 ans doit être rétroactif et ainsi s'appliquer également au premier mandat de Sissi, ce qui permettrait au président de rester en place jusqu'à 2028. Dans tous les cas, un référendum national est en théorie légalement obligatoire pour amender la Constitution. Publiquement, le président égyptien a juré qu'il ne ferait pas plus de 2 mandats, comme le prévoit le texte suprême. Il explique aussi souvent qu'il est là par la volonté du peuple et que si le peuple égyptien souhaitait qu'il parte, il le ferait. En réalité, le président égyptien a écrasé toute forme de contestation, étouffé le champ politique et pris le contrôle des médias. Les ONG dénoncent le régime le plus oppressant de l'histoire contemporaine égyptienne. Au mois de décembre déjà, le site d'information d'indépendant Madamasr révélait que les services de renseignement se réunissaient toutes les semaines pour élaborer un plan afin d'amender la constitution sans déclencher la colère du peuple. Toute l'opération serait guidée par le fils du raïs, Mahmoud El-Sissi.
Au moins 9 personnes ont été tuées ce matin dans l'explosion d'une voiture piégée sur un marché très fréquenté du sud de la capitale somalienne, Mogadiscio. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les islamistes radicaux Shebab affiliés à Al-Qaïda, qui ont juré la perte du gouvernement somalien, ont l'habitude de mener de telles opérations. C'est un véritable casse-tête à la fois judiciaire, sécuritaire, mais aussi politique, dans la mesure où les pays d'origine des militants de Daesh sont généralement réticents à l'idée de les rapatrier, en particulier devant l'hostilité de leurs opinions publiques. Depuis la semaine dernière, la question se pose notamment s'agissant de combattants étrangers de l'EI retenus par les forces kurdes syriennes et qui affirment détenir plus de 900 de ces djihadistes venant de 44 pays, dont la France. Alors jusqu'à présent, Paris excluait tout retour des adultes, combattants ou épouses. En clair, ceux qui avaient commis des délits ou des crimes en Syrie devaient être jugés sur place. Finalement, La situation pourrait changer, même si leur rapatriement s'annonce très compliqué. Paris n'entretenant pas de relations diplomatiques avec Damas. En revanche, ceux détenus en Irak devraient eux y rester. C'est le cas en particulier d'une femme jugée coupable d'avoir rejoint Daesh, Melina Bouguedir, condamnée en 2018 à 20 ans de prison. Et ce matin, depuis sa prison de Bagdad, cette djihadiste française a lancé, par l'intermédiaire de Sophie Parmentier, un appel à l'État pour qu'elle puisse parler à 3 de ses 4 enfants rapatriés en France. Notre consoeur de France Inter a rencontré en exclusivité Melina Bouguedir, incarcérée donc en Irak avec sa petite fille de 2 ans.
Le bébé, vêtu d'un habit d'éponge à capuche bleue, s'agrippe au cou de sa mère, comme la dernière fois que nous l'avions vu dans la cage de bois de la cour pénale de Bagdad, où Melina Bouguedir, 28 ans, avait été jugée en 50 minutes, condamnée à une peine de prison perpétuelle, en réalité 20 ans dans la loi irakienne, une peine qu'elle n'avait pas comprise et dit toujours ne pas comprendre dans sa prison pour femmes, où la directrice nous emmène, mais sans jamais nous montrer la cellule de Melina Bouguedir et son enfant. Nous sommes orientés vers une salle au mur décrépit, Melina Bouguedir, la tête couverte d'un voile violet, une longue robe noire et dorée sur un pantalon de jogging, s'assied sur une chaise de plastique, surveillée de près pour cet entretien par une douzaine de responsables de la prison, qui l'obligent très vite à nous répondre en arabe pour mieux suivre la conversation.
Ma fille est toujours avec moi, on est sur le même matelas.
Est-ce qu'elle a des jouets? Un jouet? Plusieurs jouets?
Non, elle n'a pas de jouets. C'est la même chose pour tous les enfants. Il n'y a pas de jouets pour les enfants dans la prison.
Melina Bouguedir ajuste la barrette multicolore de sa fillette qui grignote un morceau de pomme. Elle se dit innocente. Elle répète qu'elle a été forcée de suivre son mari vers le califat de Daesh. Elle n'exprime pas de regrets. Son discours récurrent chez les femmes de djihadistes n'a jamais convaincu la justice irakienne. Pourtant, je suis seulement arrivée à Mossoul pour ne pas laisser partir mes enfants sans moi en zone de guerre, jure-t-elle. Aujourd'hui, elle est séparée de ses 3 aînés de 4, 6 et 8 ans qu'elle a laissés repartir en France et elle aimerait avoir le droit de leur téléphoner plus souvent, dit-elle, avec un message pour eux en français.
Mes enfants, je les aime beaucoup. J'espère que je vais bientôt les revoir, qu'ils ne m'oublient pas. Voilà, moi, je pense toujours à eux. Je vais essayer de rester endurante parce que c'est difficile. Apparemment, on ne veut pas nous récupérer. Et si l'État peut au moins autoriser des appels, ce serait bien quand même. J'aimerais qu'il y ait plus de photos, plus de...
Melina Bouguedir garde l'espoir d'un procès en appel dont elle n'a aucune nouvelle pour l'instant. Elle espère surtout purger une peine de prison en France où d'autres juges antiterroristes enquêtent aussi sur elle.
Et pour continuer d'évoquer avec nous cette question délicate du retour au nom des djihadistes français à l'étranger, invité du journal aujourd'hui Antoine Mégy, chercheur en sciences politiques et spécialiste de la politique pénale pour les djihadistes. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et avec moi en studio pour vous interroger, Florence Turme. Bonjour Florence.
Bonjour.
Une première question, monsieur Mégy, afin de bien comprendre de quoi et surtout de qui nous parlons. Peut-être faut-il tout d'abord distinguer les différents djihadistes français selon les territoires sur lesquels ils se trouvent. On vient d'entendre le cas de cette femme, Melina Bouguedir, retenue donc en Irak. En revanche, s'agissant des retours annoncés la semaine dernière sur le sol français d'un certain nombre de ressortissants liés à l'organisation État islamique, eux sont actuellement retenus par les combattants kurdes en Syrie et cela fait toute la différence.
Effectivement, vous avez dans le cas des revenants des situations extrêmement différentes en fonction des États reconnus ou non, donc l'Irak ou la Syrie. Dans le cas de Melina Bouguedir, on est dans une politique diplomatique reconnue vis-à-vis de l'Irak où on accepte finalement que les ressortissants français soient jugés par la justice irakienne. Alors, ce qui se pose comme question dans ce cas irakien, c'est le respect finalement du droit de la défense et le documentaire l'a bien souligné, la manière dont ont été jugés ces ressortissants européens pose de véritables questions, notamment par rapport à la nécessité de la Cour européenne des droits de l'homme. Maintenant, l'enjeu concernant les revenants actuels concerne plus spécifiquement ceux qui ont été arrêtés et qui sont prisonniers dans des camps des forces kurdes où là la justice n'est pas reconnue comme telle. Donc il se pose une question d'ordre diplomatique et politique extrêmement différente.
Depuis plusieurs années, vous étudiez la scène judiciaire terroriste. L'une des grandes craintes de l'opinion publique traduite par de nombreux politiques, c'est d'assister à des retours sans réelle condamnation. Alors, crainte justifiée ou pas selon vous ?
Crainte absolument pas justifiée, puisque c'est là où on voit également une importance de la manière dont la justice est perçue par l'opinion publique, mais également présentée par les discours politiques. Crainte qui ne doit pas être une crainte, puisqu'il y a depuis 2015 une massification des procédures de poursuite et de condamnation des personnes qualifiées de revenantes ou même de velléitaires, c'est-à-dire ayant voulu partir, rejoindre les rangs de Daesh ou sur la zone irako-syrienne, mais n'ayant pas réussi. Donc actuellement, le pouvoir judiciaire a mis en place depuis 2015 et les attentats de Charlie Hebdo une véritable politique pénale de poursuite et de condamnation de toutes les personnes qui, de près ou de loin, sont en accord ou en tout cas ont voulu être en accord avec l'État islamique.
Tous les dossiers de revenants sont aussi considérés comme criminels, donc passibles de la cour d'assises.
Alors effectivement, là aussi, on a des différences de situation qui doivent se comprendre par rapport au calendrier finalement des attentats. De 2015 à 2016, vous avez la volonté d'abord de poursuivre ces revenants, puis ces revenantes à partir de 2016, dans le cadre de ce qu'on appelle les procès correctionnels, c'est-à-dire des procès où les peines peuvent aller de 0 à 10 ans. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces procès continuent encore aujourd'hui, et généralement, les condamnations tournent autour de 8 à 10 ans, soit les peines maximum. À partir de 2016 et de toute la série d'attentats qui ont touché la France, vous avez une nouvelle politique pénale qui a été de dire que toutes les personnes qui rentraient à présent de Syrie devaient être poursuivies pour crime. C'est-à-dire qu'elles risquaient des peines beaucoup plus lourdes, allant jusqu'à 20, 30 ans, voire la perpétuité en cas d'exaction.
Des dossiers à venir, donc, dans les années à venir précisément. En tout cas, le fait est que parmi ces 130 personnes détenues par les forces démocratiques syriennes, il y a des profils extrêmement variés. Les éléments de preuve qui permettent de les juger, le cas échéant de les condamner, existent-ils vraiment ?
Alors là, vous pointez l'une des interrogations qui est souvent relayée par certains politiques sur l'idée que finalement, on n'aurait pas de preuves. Or, il s'avère que là aussi, il y a une situation judiciaire et pénale bien précise avec l'infraction d'association de malfaiteurs terroristes. Donc, l'infraction, elle consiste à la participation à l'entreprise terroriste. Donc aujourd'hui, les revenants et revenantes qui sont arrêtés à leur retour de Syrie, puis incarcérés, puis jugés et condamnés, le sont pour participation à une entreprise terroriste. Le simple fait d'être parti, rejoindre un groupe dit terroriste, suffit à être condamné. Ensuite, il y a les éléments de preuve qui permettent d'évaluer le quantum et donc la responsabilité de chacun. Et là, effectivement, on a des preuves qui sont plus ou moins fortes pour certains. On pense notamment à ceux qui ont pu faire des vidéos. Il y a quelques mois, un jeune homme a été condamné à 8 ans de prison et il avait notamment fait une vidéo pour Daesh afin de faire venir des jeunes hommes et des jeunes femmes de France. La vidéo a été utilisée comme un élément à charge pour montrer sa participation à la propagande et donc aux actes terroristes.
Alors derrière cette crainte, est-ce qu'il n'y a pas le reproche récurrent, celui d'une justice française considérée comme trop laxiste et finalement la question du traitement de la radicalisation et de la sortie ?
Je pense qu'il y a à la fois cette vision assez étendue dans l'opinion publique que la justice est toujours laxiste. Or, nous sommes plusieurs à le démontrer. Cette justice n'est plus laxiste, en tout cas sur le contentieux terroriste. Il y a aussi la responsabilité des politiques qui utilisent finalement cette représentation pour justifier de telle ou telle posture idéologique. Il s'avère que aujourd'hui, la justice pénale, tout comme la justice administrative, ont fait du contentieux terroriste l'une de leurs priorités. Ce que l'on peut comprendre aussi derrière tous ces discours, notamment ces prises de parole politiques, c'est on voit poindre l'image de l'ennemi, ces revenants et revenantes, quels que soient les actes qu'ils ont pu commettre, ça peut être juste d'avoir participé à la vie quotidienne, voire plus grave, avoir fait des exactions au nom de Daesh, eh bien ces personnes-là construisent finalement une figure de l'ennemi, celui du terroriste. Et n'oublions pas que la France, depuis 2015, est dans une situation extrêmement terrorisée par rapport à cette violence.
Merci Antoine Mégy, chercheur en sciences politiques, je le rappelle, spécialiste de la politique pénale pour les djihadistes, d'avoir été en direct avec nous. Et merci également à Florence Turm et à nos confrères de France Bleu Normandie d'avoir permis ce direct. Après quatre premiers stand-up marathons en bras de chemise, le président Emmanuel Macron tiendra cette semaine ses 5e et 6e débats publics. Cet après-midi, le chef de l'État portera sa grande consultation en banlieue parisienne avec un premier déplacement à Évry-Courcouronnes avant de se rendre jeudi prochain en Saône-et-Loire à la rencontre des jeunes. Parallèlement, le chef de l'État entend aborder le sujet toute cette semaine avec les chefs des groupes représentés au Parlement à la fois national et européen. Enfin, tandis qu'il multiplie ainsi donc les consultations pour sortir de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron laisse entendre par ailleurs qu'il pourrait être tenté de convoquer un référendum, potentiellement le 26 mai prochain, c'est-à-dire le jour des élections européennes. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors certains jugent d'ores et déjà que la concomitance d'un tel référendum et d'un scrutin européen jugé comme déterminant pour l'avenir de l'UE ne serait pas sans difficulté. Sans compter que l'expérience amène à se méfier de la tentation des référendums, lesquels sont, on le sait, souvent l'occasion de s'opposer au pouvoir en place, quel qu'en soit le sujet. Et c'est ainsi qu'ils sont de plus en plus nombreux, Stéphane, y compris au sein de la majorité présidentielle, à ne plus cacher leur scepticisme.
Oui, c'était notamment le cas ce matin du délégué général du parti En Marche, Stanislas Guérini, un proche d'Emmanuel Macron. Il ne faut pas se précipiter, expliquait-il à nos confrères de France Info, et manier cet outil référendaire avec précaution.
Je trouve simplement que le débat qu'on est en train d'avoir sur le référendum me semble prématuré parce que on est en ce moment en plein dans le grand débat. Et donc, il faut voir ce qui va en ressortir sur le fond. Et puis, j'avoue m'interroger sur l'opportunité de le faire le jour des élections européennes. C'est une question qui est essentielle. Et je pense qu'il ne faut pas qu'elle soit escamotée.
Il y aurait donc un risque qui serait d'escamoter les élections européennes, de les reléguer au second plan, de faire qu'il y aurait accessoirement un scrutin européen, en plus des questions qui seraient posées aux Français à l'occasion de ce référendum. Alors oui, c'est vrai, ce serait de nature à diluer un peu l'enjeu de ces élections, à diluer aussi le message très pro-européen d'Emmanuel Macron. Mais d'un autre côté, ça permettrait d'atténuer la nature de ce scrutin qui traditionnellement fait figure de défouloir et ainsi de faire en sorte que ça ne se résume pas à une question binaire pour ou contre l'Europe, pour ou contre Macron. Et puis, il peut y avoir aussi un avantage à faire savoir que le président prend un risque avec ce référendum. S'il ne fédère pas tous les Français, s'il ne fait pas l'unanimité, au moins il ose, il fait preuve d'audace. Et enfin, ça permettrait de donner une perspective au grand débat, de répondre à la contestation des Gilets jaunes. Ça, c'est ce que font valoir ceux qui, au sein de la majorité, se disent favorables à ce référendum.
Et puis, il se trouve que ces divisions au sein de la majorité parlementaire, s'agissant du référendum, se font jour également sur un autre sujet, Stéphane, celui de la loi anti-casseurs.
Oui, plusieurs députés de la majorité ont fait savoir qu'ils ne voteront pas cette loi anti-casseurs, dont l'adoption à l'Assemblée est prévue demain après-midi. C'est le cas en particulier des députés En Marche, Aurélien Taché et Mathieu Orphelin. Au total, une vingtaine d'entre eux pourraient au mieux s'abstenir demain. Alors ça, ce n'est pas grave, a répondu le chef des marcheurs Stanislas Guérini. Même s'il vote contre, on peut avoir des désaccords sur tel ou tel projet de loi. Ce qui divise est que cette loi anti-casseurs est empruntée à la droite et en l'occurrence au patron du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. Elle vise vraisemblablement à consolider la réponse ferme et sécuritaire apportée aux violences qui s'expriment dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes et à séduire un électorat de droite très attaché à la fermeté républicaine, parce que c'est là, à droite, que se situent de potentielles réserves de voix pour Emmanuel Macron aux élections européennes. Et ça d'autant plus que la droite républicaine a tendance, avec Laurent Wauquiez, à se déporter vers l'extrême droite pour tenter de séduire les électeurs du Rassemblement National.
Merci Stéphane Robert. Depuis ce matin, le procès en diffamation de plusieurs femmes, mais aussi plusieurs de nos confrères accusant Denis Baupin d'agression sexuelle et de harcèlement a débuté devant le tribunal correctionnel de Paris. Une affaire qui avait pourtant vocation à ne jamais arriver jusque-là, puisqu'après 10 mois d'investigation, le parquet de Paris avait décidé en mars 2017 de classer sans suite son enquête, considérant que si les faits dénoncés sont pour certains d'entre eux susceptibles d'être qualifiés pénalement, ils sont cependant prescrits. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, de manière assez paradoxale, ce procès en diffamation initié par l'ancien élu écologiste satisfait en réalité un certain nombre de femmes bien déterminées à se saisir de cette occasion pour pouvoir témoigner à nouveau. Quoi qu'il en soit, ce matin, ce procès prévu pour durer jusqu'à vendredi a donc débuté en l'absence très remarquée de Denis Baupin lui-même. Compte rendu d'audience signé Antoine Marette.
Tout le monde est là, ou presque. L'ancien PDG de Radio France est représenté par son avocat, tout comme Denis Baupin, qui est parti civil dans ce procès. Les avocats de la défense veulent qu'il soit présent à l'audience pour qu'il y ait une confrontation. Maître Antoine Comte est avocat d'Annie Lameur, poursuivi pour avoir accusé Denis Baupin de harcèlement sexuel. L'avocat s'étonne de l'absence du principal protagoniste de cette affaire. Il ironise sur ce procès sans partie civile, ce procès qui transforme les victimes en personnes poursuivies. poursuivies, des victimes poursuivies pour avoir dit ce qu'elles pensaient être juste. De son côté, l'avocat de France Inter met en avant ce qu'il considère comme un paradoxe, quelqu'un qui saisit le tribunal et qui a peur de se présenter devant lui. Je préfère que l'on s'en tienne au droit et uniquement au droit plutôt que de convoquer l'indignation, répond l'avocat de Denis Baupin. Maître Emmanuel Pierrat rappelle que la partie civile peut toujours se faire représenter, que le débat n'en est pas moins contradictoire. L'avocat hausse le ton. Il est inutile de faire venir Denis Baupin pour qu'il subisse à nouveau des accusations mensongères et des injures. Il a déjà répondu très longuement à la police. La confrontation a déjà eu lieu. Le tribunal juge la demande de la défense irrecevable. Un procès équitable pourra avoir lieu sans la présence de Denis Baupin, même si, ajoute le président, on préfère quand les parties sont là.
On termine avec un mot rapide de météo. Cet après-midi, la perturbation s'étendra du sud-ouest à la frontière belge. Les températures, elles seront généralement comprises entre 0 et 12 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue à 18h. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.